Décryptage, Marie Cazadebé.
Décryptage aujourd'hui en partenariat avec Courrier International pour dresser le portrait de la Chine 30 ans après Tiananmen. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, la répression d'un mouvement populaire inédit coupait court aux espoirs de réforme et de démocratie des Chinois. Le régime faisait le choix de la stabilité à tout prix.
Plus d'un million de Chinois ont défilé sur la place Tiananmen pour soutenir la grève de la faim des étudiants.
Tout le monde descendu dans la rue. Les vieilles dames, vieux messieurs criaient. Descendez-vous pour protéger nos enfants. C'était extraordinaire. Personne ne croyait que l'armée capable tirer une balle réelle.
L'armée a tiré sur la foule, bilan encore partiel. 1400 morts, plus de 10 000 blessés et l'ordre n'est toujours pas revenu.
La stabilité à tout prix. 30 ans après, la priorité reste la même, mais les moyens ont changé. 30 ans après, la Chine est l'usine du monde. Elle importe même son modèle. La société chinoise a donc bien connu une révolution, mais pas celle que les manifestants prôné sur la place Tiananmen. On prend des nouvelles du pays dans Décryptage. Bonsoir Agnès Godu.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste donc au magazine Courrier International, notre partenaire du jour, spécialiste de la Chine. Et bonsoir Chloé Froissart.
Bonsoir.
Maître de conférence en sciences politiques au département de chinois de l'université Rennes 2. C'est donc dans le nord-ouest de la France, spécialiste des mouvements sociaux en Chine. Agnès Godu, dans ce hors-série de Courrier International, vous avez fait le choix de raconter à travers des articles de la presse asiatique et occidentale la Chine d'aujourd'hui. Un portrait assez sombre, il faut le dire. C'est le mot désenchantement qui m'est venu à la lecture du magazine. À quel point les événements de la place Tiananmen expliquent le pays tel qu'il est aujourd'hui?
D'un certain point de vue, quand vous parlez de désenchantement, on parle aussi d'une espèce de d'oubli qu'on avait fait et que la société mondiale ou occidentale avait fait dans les 10 à 20 années après Tiananmen, à savoir que le développement économique de la Chine reposait et était parti du point de départ qui était Tiananmen, c'est-à-dire une répression sanglante. Pendant très longtemps, il y a eu une espèce de volonté un petit peu rose de se dire oui, bon, la Chine est en train de se développer, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer. D'ailleurs, on voyait effectivement des signes de la naissance d'une société civile. Il se passait des choses. C'était encore un pays à parti unique, c'était encore un parti répressif. Il n'empêche qu'il y avait des choses qui avançaient. Or, aujourd'hui, ce désenchantement vient justement du fait que cet espoir qui avait malgré tout qui renaissait après, au bout de 15-20 ans, a été complètement coupé.
Chloé Froissart, vous parleriez aussi d'un moment pivot, d'un virage dans l'histoire de la Chine, en juin, donc 89.
Oui, absolument. Je pense que les années 80 ont été des années de grande ouverture et d'optimisme qu'on n'a pas retrouvé depuis. Et à l'époque, on parlait non seulement de réforme économique, mais également de réforme politique, en particulier la séparation de l'État et du parti. Et il y avait un espoir de réelle réforme, voire de modernisation du régime à cette époque-là, dont étaient porteurs, qui portaient, si vous voulez, ce mouvement étudiant. D'ailleurs, le pouvoir était très très divisé hein, face à l'ampleur des réformes, à l'ampleur à donner aux réformes et face à ce mouvement qui demandait plus de réformes politiques. Et là, franchement, ça a été la décision de Deng Xiaoping de réprimer ce mouvement qui plus est dans le sang a été le signe que la Chine resterait un régime autoritaire ferme.
Je vous propose d'écouter l'analyse de l'écrivain en exil Liao Yiu, j'espère que je prononce bien son nom. Il a payé son militantisme au prix fort, torture, emprisonnement, exil en Allemagne. Aujourd'hui, il se qualifie de travailleur du souvenir.
Le massacre de Tiananmen a été le point de départ de toute l'évolution de la Chine ces 30 dernières années. On doit se rappeler qu'à l'époque, le général Wang Zhen, un haut fonctionnaire, avait dit à Deng Xiaoping « Tuer 200 000 personnes nous apportera 20 ans de stabilité ». Je pense qu'il avait bien compris le système. Ensuite, le marché qui était passé entre la population et le gouvernement chinois, c'était « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, y compris être capitaliste et faire fortune, mais vous n'avez pas le droit à la parole, ni aux droits de l'homme, ni à la démocratie ». Au fond, cela revenait à dire il fallait la répression pour maintenir notre système en place. D'ailleurs, le gouvernement continue à le penser.
Chloé Froissart, pardon, vous partagez cette analyse. La Chine, il y a 30 ans, a acté finalement un choix entre la stabilité et le développement économique et la démocratie.
En tout cas, c'est comme ça que c'est formulé du point de vue du pouvoir chinois, qui identifie nécessairement la démocratie ou même certaines formes de réformes plus libérales au chaos. Et à justifier la répression dans le fait qu'il fallait que la Chine, se développe économiquement et maintienne une stabilité qui était en fait maintienne le pouvoir du parti. Après, c'est sûr qu'on gouverne pas un pays qui fait 27 fois la France comme un petit pays, mais est-ce que la démocratie, ou en tout cas, il y a plusieurs formes de démocratie, et c'est aussi une question qui n'avait pas été tranchée par les étudiants à l'époque, qu'est-ce qu'ils voulaient comme type de démocratie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui était demandé, c'était moins un homme, une voix, que certaines formes de contrôle sur le pouvoir. Et on peut pas penser que c'est une source d'instabilité, ça non.
Oui, Agnès Godu, il n'était pas du tout... vous étiez à Pékin, d'ailleurs, oui. Il y a 30 ans. Il n'était pas question de révolution. Alors, finalement, les deux étaient-ils incompatibles, l'envie d'une ouverture démocratique et le développement économique?
Il n'était pas question du tout de révolution. Il était question de savoir, effectivement, comme vient de le dire Chloé... d'avoir un plus de contrôle sur comment le gouvernement et les autorités fonctionnaient, d'avoir aussi un gouvernement plus technocrate, c'est-à-dire un gouvernement qui régissait avec la raison plus qu'avec la politique. C'était un mouvement assez idéaliste et qui pensait qu'effectivement, en apportant toute la science et le savoir-faire de cette jeunesse qui sortait des universités, si on leur laissait à eux la parole et le moyen de penser une Chine qui allait se transformer et se moderniser, alors on allait aller vers plus de démocratie. La définition de la démocratie n'était pas tous les jours sur la place Tiananmen, non.
En tout cas, cette espèce de liberté qu'avaient connu les Chinois leur ont fait dire, comme on entendait en introduction, que l'utilisation des armes était impensable sur la place Tiananmen. C'est ce que raconte d'ailleurs une mère qui a perdu son fils à Radio Free Asia, une radio basée à Washington. Alice Godu, vous publiez son témoignage dans ce hors-série. Elle ne pouvait pas se douter que son fils risquer sa vie en juin 89.
C'était quand même un énorme tabou, l'utilisation, la répression. Le mouvement avait duré déjà depuis de longues semaines et il paraissait à peu près évident que bientôt le pouvoir allait faire quelque chose pour que ça cesse. Mais utiliser les armes, c'était un énorme tabou. Et je pense que ça s'est ajouté et ça se sentait. Enfin, dans l'horreur de cette nuit-là et du matin du 4 juin, il y avait l'effroi de penser qu'effectivement on avait utilisé l'armée pour tirer sur le peuple. Les gens étaient dans Pékin les bras ballants en se disant mais comment ont-ils pu faire ça?
Chloé Froissart, 30 ans après, cette mère ne sait pas exactement comment son fils est mort. Beaucoup d'autres pleurent des enfants sans jamais avoir pu retrouver leur corps. Elles ne sauront jamais ce qui s'est passé.
Non, il y a eu un blackout total le lendemain même, enfin le 4 juin matin, sur ces événements. Et d'ailleurs, ce qui est très bien reporté dans ce témoignage, c'est qu'on a voulu cacher les corps. Le pouvoir a voulu cacher les corps. Ils ont pris les blessés et les morts. Ils les ont enterrés de manière sauvage dans des fosses communes. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien de morts il y a eu de morts. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est que ce n'est pas qu'à Pékin, hein, mais il y a eu beaucoup d'autres villes dans toute la Chine qui ont eu ce même mouvement, enfin qui ont participé à ce mouvement, dont Chengdu, Nankin, etc. et Shanghai. Ça serait plutôt proche de plusieurs milliers de personnes qui seraient mortes. Et si vous voulez, le lendemain même du massacre, on a commencé à arrêter les gens et surtout ceux qui avaient été témoins du mouvement ont été empêchés de témoigner. Et toute la société a collaboré. Les Danois, c'est-à-dire les unités de travail, empêchaient leurs employés de s'exprimer. La presse, au départ, a condamné le mouvement, puis a cessé totalement de parler de ce mouvement. Ça fait 30 ans qu'on ne parle plus de ce mouvement en Chine, officiellement. Si vous voulez, moi j'étais étudiante 10 ans après, en 99 à Chengdu, et notre professeur à l'université nous disait, mais à un moment donné, c'était un cours où il y avait des étrangers, et elle s'est permis, on a mis C'était justement début juin, on a mis le, si vous voulez, le thème du cours et on est venu aborder la question du 4 juin et elle a dit heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Et là, on était, mais c'est pas possible. Et aujourd'hui encore, enfin, je veux dire, mes étudiants en France, peu connaissent la réalité de ce qui s'est passé et de toute façon, beaucoup aussi ne veulent pas savoir, parce qu'ils ont peur.
Agnès Godu, d'ailleurs, vous qui parcourez évidemment la presse aussi pour Courrier International, vous n'auriez pas pu glisser dans ce hors-série des articles de presse chinoise, évidemment, sur les événements de Tiananmen. Il n'y a pas une seule ligne aujourd'hui, ces derniers jours.
Totalement impossible. Il n'y a pas une seule ligne. Ce matin et hier, tous les sites et tous les journaux de Chine avaient comme premier titre un titre sur Xi Jinping qui s'occupait de la question du tri des ordures. Il n'y avait strictement rien sur l'anniversaire du 4 juin. En revanche, le ministre de la Défense qui était à Singapour a répondu à une question de l'auditoire en disant que finalement, le pouvoir avait réglé les choses de manière correcte.
Rien au point, Chloé Froissart, qu'on risque quelque chose justement à faire des recherches sur ces événements, ne serait-ce qu'en faisant des recherches sur Internet.
Est-ce que c'est le point de vue d'un Chinois ?
Oui, tout à fait. Si on cherche justement à avoir des renseignements sur ces événements-là.
Alors, aucun renseignement n'est accessible de Chine sans VPN, c'est-à-dire sur l'intranet chinois. Vous savez que l'internet est extrêmement contrôlé en Chine, donc il faut déjà avoir un VPN. C'est difficile aussi de, si vous voulez, il y a une sorte de jeu de chat et la souris entre les fournisseurs étrangers de VPN et le pouvoir chinois. Et régulièrement, ces VPN sont bloqués. Donc, si vous voulez, l'accès à l'information n'est pas continu et une vraie bataille en Chine. Il faut déjà aller chercher cette information. Et pour aller chercher cette information, ça veut dire aussi savoir qu'il s'est passé quelque chose. Or, il y a véritablement, si vous voulez, une chape de plomb, une amnésie orchestrée par le pouvoir sur Tiananmen, au point que ceux qui n'ont pas été contemporains du mouvement ne savent pas de quoi il s'agit.
Ouais. Une mémoire totalement inaccessible, donc dans un pays pourtant, vous l'avez dit, ultra connecté. C'est un immense paradoxe que l'on lit bien dans le hors-série de Courrier International, et c'est l'une des facettes de la Chine que vous avez souhaité dessiner, Agnès Godu, l'omniprésence des nouvelles technologies auxquelles les Chinois d'ailleurs se sont extrêmement vite adaptés. Aujourd'hui en Chine, on peut tout faire avec son portable.
On peut absolument tout faire, on peut payer la plupart de ses consommations, on peut bien sûr prendre des billets, on peut parler évidemment, si on ajoute à peu près toutes les fonctions de toutes les applications diverses que nous utilisons, nous, sur nos ordinateurs et nos portables, elles peuvent se réunir sur un portable et parfois sur une seule application.
Chloé Froissart, vous avez vécu justement cette transition au numérique. Vous n'avez pas senti de réticence de la part des Chinois ? C'est pas évident à un moment de passer du billet papier au portable. Ils s'y sont très vite adaptés, vous l'avez remarqué ?
En effet, moi j'ai vécu, je reviens de 4 ans où j'ai travaillé à Pékin, à l'université à Pékin, de 2014-2018, et j'ai vécu vraiment cette transition. Ça a changé la vie. Par exemple, vous réveillez le matin sans électricité, sans chauffage, vous pouvez même pas vous faire un café parce que tout est coupé et que la machine à café fonctionne sur l'électricité. Et ça veut dire que vous devez aller payer votre facture parce que les factures ne sont jamais envoyées à domicile en Chine. Et donc ça veut dire, voilà, avant même de pouvoir vous faire un café, vous devez aller faire la queue pour payer vos factures. Et pareil pour Internet, vous avez un travail urgent à rendre, Internet est coupé parce qu'il faut aller payer la facture et c'est à l'autre bout de Pékin et il faut prendre son vélo et il fait froid, etc. Il faut faire la queue. Bref. Et en très peu de temps, voilà, les applications sur smartphone ont permis de régler toutes ces factures en un rien de temps. Il suffit de cliquer. Vous pouvez littéralement sortir de chez vous sans portefeuille, sans porte-monnaie, sans argent, vous payez tout avec le smartphone. Pareil pour les taxis qui sont une vraie galère à Pékin pour avoir un taxi parce que ils sont pris d'assaut. Et ben vous pouvez commander votre taxi quand vous avez un rendez-vous important et prévoir pour ne pas être en retard, etc. Donc personne ne peut résister à cette évolution-là et les Chinois en sont ravis parce que ça leur a simplifié la vie et aussi parce que ça représente une vie moderne. moderne. Voilà, et pour eux, la Chine est à la pointe de la modernité à travers ce type de fonctionnalités.
Et on en vient évidemment aux dérives, hein, puisque tous les Chinois donc, ont un smartphone dans la poche, et des outils de contrôle de la société, vous le dites bien dans Courrier International. Il y a près de 200 millions de caméras de surveillance, par exemple, à travers le pays, avec un système de reconnaissance faciale, utilisé aussi bien par la police que par des entreprises comme cette banque qui en a installé à ses distributeurs automatiques.
Vous appuyez sur la touche retrait avec reconnaissance faciale, la caméra scanne votre visage et puis vous composez votre numéro de téléphone, le montant que vous voulez retirer, puis vous rentrez votre code confidentiel et voilà. Les billets sortent.
À l'œil nu, vous ne distinguez pas des jumeaux, mais l'appareil en est capable. Il peut identifier la personne, même si ses traits ont changé, et même après une opération esthétique.
Alors au-delà de cette surveillance vidéo, Agnès Godu, on peut lire dans Courrier International un article qui fait un peu froid dans le dos. La Chine expérimente des systèmes de notation pour juger le comportement des Chinois. Il y a 43 zones de test. Comment ça fonctionne? C'est quoi le but de ces expérimentations?
Alors le but semble a priori extrêmement anodin. Il s'agit de noter, d'accorder une gratification à tous ceux qui ont un comportement qui est positif, c'est-à-dire quelqu'un qui paye ses dettes au bon moment, traverse bien la rue, etc. Ou bien fait des choses que l'on est très présent sur Internet, ça va être positif et du coup il va amasser des points. À l'inverse, des comportements jugés négatifs vont lui en retirer. Alors il y a plusieurs systèmes extrêmement différents et qui ne notent pas tous la même chose. Il est probable que d'ici quelques années les autorités centrales essayent de concocter un système à partir de toutes ces expérimentations, comme il le fait très souvent. Voilà, c'est un système de notation qui paraît pour l'instant à beaucoup de gens en Chine à noter. Et qui en fait peut aussi évidemment être croisé avec les contacts, les opinions, etc.
Enfin, un système qui se repose aussi, on parlait tout à l'heure de smartphone, beaucoup sur justement ces données numériques. C'est bien à cela que ça sert. Et je lisais par exemple que dans certaines provinces, être accusé de diffamation sur Internet coûtait 100 points. Contre 35 si vous fabriquez ou vendez des contrefaçons. Chloé Froissart, ça ne vous étonne pas que ça coûte plus cher finalement de s'exprimer sur Internet que de frauder?
Oui, il y a une sorte d'aberration totale comme ça, mais ce qui montre bien la peur que le régime chinois nourrit à l'égard d'Internet. Hein. Mmh. Il y a eu une reprise en main de l'Internet extrêmement forte sous Xi Jinping qui a créé une commission centrale pour contrôler Internet. Et voilà, et ça dit aussi beaucoup de choses sur ce système, si vous voulez, où on ne connaît pas les données de pondération. Souvent, les critères de notation sont complètement arbitraires, subjectifs, par exemple. Vous achetez des couches pour vos enfants, ça veut dire que vous êtes un bon père de famille, une bonne mère de famille, donc vous avez des points. Vous passez 10 heures devant votre ordinateur, vous en perdez, ça à savoir pourquoi, j'en sais.
Mais est-ce que tous ces outils permettent aujourd'hui à la Chine de se prémunir d'un nouveau Tiananmen pour revenir à notre point de départ, évidemment, voilà, la collecte des données de base, des données, pardon, numériques, mais aussi la reconnaissance faciale. Est-ce que tout cela, justement, c'est pour se prémunir d'un événement qui a énormément marqué le pays?
Alors, il y a, si vous voulez, c'est pas ce qui est mis en avant par le pouvoir. Ce qui est mis en avant par le pouvoir, c'est restaurer la confiance au sein de la société. Cette confiance qui fait défaut justement en régime autoritaire, parce qu'il n'y a pas d'état de droit, que personne n'a confiance en personne. Et ce qui est important de souligner, c'est que ce système de notation inclut non seulement les individus, mais également les entreprises, les ONG et les administrations. Donc bon, déjà première question, est-ce qu'on peut vraiment restaurer la confiance dans un système punitif, par un système punitif? Première question. Deuxième question, évidemment, même si c'est pas mentionné, l'idée est évidemment de pouvoir empêcher, contrôler, instaurer un contrôle orwellien dans la vie de tous les jours, privé des individus, afin d'empêcher justement qu'ils puissent s'exprimer et s'organiser politiquement.
Un contrôle à la base cette fois qui pourrait, on imagine, éviter ou couper justement l'herbe sous le pied de toute contestation. Merci beaucoup Chloé Froissart et merci Agnès Godu. Je rappelle que donc le hors-série Courrier International vient de paraître, La loi de la Chine, c'est son titre, un portrait du pays 30 ans après Tiananmen.